Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour à tous, c'est aujourd'hui 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. À Beni, en République démocratique du Congo, les professionnels de la santé encouragent la population à se faire dépister, mais également aux personnes déjà infectées de prendre régulièrement les antirétroviraux pour renforcer leur immunité et limiter ainsi la transmission du virus en cas de rapport sexuel non protégé. Les écoles publiques de la province du Kwango viennent de recevoir de nouveaux bancs livrés par le ministère de l'Éducation nationale, une dotation qui s'inscrit dans le cadre d'un programme du gouvernement central visant à renforcer l'environnement d'apprentissage dans les écoles de la province. Le commandant secteur opérationnel Sokola 2 Nord-Sud Kivu a partagé sa compassion à l'endroit des populations de Kamituga, victimes de la méconduite de quelques militaires et oisalènes le 25 novembre dernier. Il a au même moment invité ces hommes à renforcer les relations civilo-militaires pour se donner le plus de chances possible pour vaincre les ennemis de l'agression de la République démocratique du Congo. Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, c'est aujourd'hui 1er décembre à Beni. Les professionnels de la santé encouragent la population à se faire dépister régulièrement pour connaître son statut sérologique. Ils recommandent également aux personnes déjà infectées de prendre régulièrement les antirétroviraux pour renforcer leur immunité et limiter ainsi la transmission du virus en cas de rapport sexuel non protégé. Le docteur Nikèze Maté, coordonnateur du programme national de lutte contre le sida antenne de Beni Boutembo, explique au micro de Marc Marofimbo.
Vous savez que la dangerosité du virus, c'est le fait qu'il soit capable de se multiplier dans le corps de la PVV. Si le virus ne se multiplie pas, ça signifie qu'à un certain moment, le corps humain va pouvoir l'éliminer. Alors, les médicaments que nous donnons, ce sont les antirétroviraux, empêchent la multiplication du virus. Et aussi longtemps que vous prenez les antirétroviraux, cet empêchement continue. Et à ce moment-là, le virus ne s'exprime pas, il ne se multiplie pas. Vous aurez vos globules blancs intacts, parce que le virus n'arrive pas à les parasiter et à se multiplier. Alors c'est pour cette raison-là que nous faisons beaucoup d'efforts pour que la personne vivant avec le VIH puisse être en permanence en contact avec les ARV. S'il absorbe les ARV en permanence, un comprimé par jour, sa dose journalière, tout le temps que cela fera, cette personne ne pourra pas contaminer, cette personne ne pourra pas souffrir du VIH. Ses anticorps, ses globules blancs seront restés intacts et à ce moment-là, il peut lutter efficacement contre les autres agresseurs.
Entre-temps, dans la province de l'Ituri, des centaines de détenus de la prison centrale de Bounia ont été sensibilisés aujourd'hui à la prévention contre le VIH-Sida, sensibilisation suivie du dépistage volontaire à cette maladie. Deux activités organisées par l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, en partenariat avec la police de cette organisation UNPOL et le contingent bangladais. L'objectif est de garantir le droit à la santé de ces personnes vulnérables pour qu'elles connaissent leur état sérologique afin de se protéger et protéger également les autres contre cette maladie. Martial Kiza nous en dit plus.
33 34. C'est par cet appel chiffré que des centaines de détenus de la prison centrale de Bounia, rangés en file indienne, défilent tour à tour, chacun avec un bout de papier à main, devant deux médecins de la police sénégalaise de la MONUSCO. Ici, ces passionnaires se soumettent au prélèvement du sang volontairement, puis se dirigent vers une deuxième équipe de médecins pour les résultats. Guillaume Kassereka, l'un des bénéficiaires, quitte les locales de soins, sourire aux lèvres. Son résultat négatif. Pour lui, comme tous les autres détenus volontaires, ce dépistage met fin au doute qu'il avait sur son état sérologique. Il décide désormais de respecter toutes les mesures de prévention contre les VIH-Sida. Selon les organisateurs de cette activité, à cause de la promiscuité des détenus à la prison centrale de Bounia, les risques de contamination au VIH-Sida est élevé. Les cas positifs seront directement pris en charge et mis sous traitement des antirétroviraux. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
un autre arrêt dans la province du Nord Kivu. Des milliers de personnes déplacées continuent de subir des traumatismes liés à des actes d'exploitation et abus sexuels dont elles ont été victimes. Ce constat a été présenté aujourd'hui à Goma par l'organisation Wokowu Way, et qui signifie la voie du salut en français, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Cette organisation a lancé une formation de 3 jours à l'intention d'une cinquantaine d'acteurs humanitaires. Selon son directeur exécutif, cette initiative vise à renforcer la réponse face aux risques d'abus et d'exploitation sexuelle perpétrés par certains agents humanitaires, lesquels affectent gravement les personnes déplacées et celles retournées. Écoutons à ce sujet les propos de Magula Alain.
Nous sommes partis du constat des crises humanitaires où il y a eu des mouvements de déplacés du territoire de Rutshuru, Masisi, mais aussi une partie du territoire de Sud Kivu au niveau de Calais vers la ville de Goma. Alors toutes ces personnes ont été obligées à retourner dans leur milieu d'origine et qui continuent à bénéficier de certaines aides des acteurs humanitaires. Et il y a des humanitaires qui font des dérapages et qui conditionnent les aides par rapport au sexe. Et ça, c'est déjà les choses qui entrave la communauté est frustrée et les personnes sont contraintes à le faire par rapport à leur vulnérabilité, ce qui pousse à certaines conséquences sur la santé mentale de ces populations-là. Et c'est cet constat qui nous a poussé à identifier certaines organisations humanitaires qui participent dans les réseaux de prévention des exploitations et abus sexuels. Nous sommes en train de les former et les orienter comment prendre en charge les bénéficiaires sans autant conditionner les aides.
Le ministère de l'Éducation nationale a doté plus de 2000 bancs pupitres aux écoles publiques de la province du Kwango. Selon un communiqué de ce ministère parvenu sur Radio Okapi aujourd'hui, ces kits scolaires ont été livrés en pièces détachées depuis la ville de Kenge vers les différents territoires du Kwango. Cette dotation s'inscrit dans le cadre d'un programme du gouvernement central visant à renforcer l'environnement d'apprentissage dans les écoles de cette province. Les détails avec vous, Blaise Ndongala.
Les écoles publiques de Kenge 1 et celles des territoires environnants ont reçu 1478 bancs, tandis que celles de Kasongolunda en ont bénéficié de 168. Selon les mêmes communiqués, 200 bancs ont été transférés à Bukangalonjo en dérotation et 400 autres supplémentaires sont en cours d'acheminement vers Fechi. La même source rapporte que ces équipements scolaires étaient entreposés depuis plusieurs mois dans l'enceinte de la procure, siège de la Caritas à Kenge. Le gouvernement provincial du Kwango, chargé d'assurer les redistributions, avait procédé au démontage des bancs afin de faciliter leur transport. Toutefois, cette opération a entraîné un ralentissement dans leur acheminement nécessitant une intervention urgente du ministère des tutelles pour garantir la continuité et l'efficacité du processus. Le ministère de l'Éducation nationale réaffirme ainsi son engagement à veiller à la bonne exécution de toutes les opérations contribuant à l'amélioration des conditions d'apprentissage et à la promotion d'une citoyenneté responsable dans cette partie du pays.
En République démocratique du Congo, une nouvelle ère fiscale s'ouvre aujourd'hui 1er décembre. Le gouvernement lance officiellement la facture normalisée, un dispositif qui doit aider à lutter contre la fraude, mobiliser les recettes de l'État, mais aussi protéger les consommateurs, concrètement commerçants, entreprises et même certains prestataires de services devront désormais livrer une facture électronique conforme aux normes fiscales en vigueur. Alors, qu'est-ce que cela signifie, cette facture normalisée, et à quoi ressemble tel élément de réponse avec vous, Pauline Mouzalia?
La facture normalisée est un document électronique sécurisé et standardisé imposé par l'administration fiscale et qui devra accompagner les transactions commerciales. Cette facture est émise à l'aide d'un dispositif électronique fiscal qui est directement relié à la Direction générale des impôts. Objectif affiché par le gouvernement, rendre les opérations économiques plus transparentes et mieux traquer les recettes fiscales dans un pays où une partie importante de l'activité économique se déroule encore dans l'informel. Cette facture normalisée comprend notamment l'identité du vendeur, l'identité du client, un numéro de facture unique, le produit ou le service vendu ainsi que le prix et les taxes à payer. Mais cette facture normalisée n'est pas seulement un outil pour l'État, elle concerne aussi directement les entreprises et les consommateurs. Pour les entreprises, notamment celles déjà formalisées, cela implique de mettre à jour leur système de facturation. Les logiciels de gestion et les procédures internes doivent s'adapter pour générer ces nouvelles factures conformes aux exigences de l'administration fiscale. Pour les consommateurs, la facture normalisée est surtout une preuve d'achat fiable qui facilite les réclamations ou sert de preuve en cas de litige, mais aussi elle peut faciliter certaines démarches fiscales lorsque la loi le prévoit.
Le commandant secteur opérationnel Sokola 2 Nord-Sud Kivu appelle les troupes sous son commandement à renforcer les liens civilo-militaires, gage essentiel pour remporter la victoire contre l'agression de la RDC. Par la même occasion, le colonel Kisembo Isengoma Benjamin présente sa compassion à la population de la ville de Kamituga, victime de la méconduite de quelques éléments des FRDC Wazalendo le 25 novembre dans le territoire de Mwenga. Un peu plus de détails avec vous, Jean Kassami.
Ces propos du commandant secteur opérationnel Sokola 2 Nord-Sud Kivu ont été tenus lors d'une visite d'inspection des troupes engagées sur l'axe Chabunda-Nzibira mercredi passé. Le porte-parole FARDC du secteur opérationnel, le sous-lieutenant Meya Jérémy, revient sur le message clé adressé aux militaires FARDC basés à Mukonkwa et à Nyombe dans les territoires de Chabunda.
Il a instruit le commandant à bien prendre leurs hommes en main. Il demande de dénoncer au moment opportun tout militaire qui commet les actes contraires à la loi ainsi qu'au droit international humanitaire.
À propos des actes de vandalisme commis contre la population civile à Kamituga le 25 novembre par certains militaires et Wazalendo, les commandants secteurs assurent que ces actes ne resteront pas impunis. On écoute encore une fois le porte-parole.
Les enquêtes diligentées sont déjà en cours par les services habilités pour identifier les auteurs et acteurs en fait de répondre à celles devant la rigueur de la loi.
Jusqu'à présent, une grande partie du territoire de Chabunda est sous contrôle des FRDC soutenus par les Wazalendo. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, les opérations de désarmement et démobilisation des groupes armés ont été lancées le week-end. Selon le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, ces opérations visent à contribuer à une paix durable. Un échantillon d'armes a été remis au service de sécurité. Florence Kizalunga.
Nous acceptons de déposer les armes pour la paix.
C'est à cette arme que ces combattants se sont exprimés. Le point focal du PDDRCS, Amourani Yumabungias, donne ici les statistiques attendues.
La province du Maniema, nous avons identifié jusque-là 26 groupes armés. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des statistiques allant à environ 5000 combattants qui sont attendus et qui sont prêts à déposer les armes et à rejoindre le PDDRCS. Aujourd'hui dans la province du Maniema.
Le coordonnateur national félicite le Maniema pour cette preuve de résilience. Jean de Dieu Désiré.
Le PDDRCS, c'est votre programme. Ce n'est qu'une première étape. Le reste, on est ensemble et avec les chefs de l'État, nous allons véritablement contribuer à ce qui est la paix et le développement pour le Maniema.
Le gouverneur demande à la population de s'approprier ce programme. Moussa Kabankoubi.
La finalité de ce programme, c'est qu'il y ait la paix dans nos territoires. Sans la paix, nous ne pouvons pas avoir le développement. Donc pour terminer, c'est le moment de la réparation.
Selon les autorités, cette opération qui a commencé à Kindu va s'étendre dans tout le territoire de la province. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En dehors de la RDC, le pape Léon XIV est au Liban depuis hier, un pays profondément marqué par la guerre et la crise. Il a été reçu hier à son arrivée au palais de Babda par le président Joseph Aoun, le chef du Parlement mais aussi le Premier ministre, une séquence politique durant laquelle il a insisté sur la nécessité d'un État qui assure la défense du bien commun mais aussi l'avenir de la jeunesse. L'opposant camerounais Anissé Ekané est décédé hier nuit, a-t-on appris ce matin de ses avocats et sa famille. Le président du parti politique Manidem, Anissé Kanné, avait été interpellé le 24 octobre dernier à Douala et était depuis en détention dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé.
L'invité.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se rend à Washington pour entériner l'accord RDC-Rwanda signé sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Dans un entretien exclusif accordé samedi à Radio Okapi, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a indiqué que ce déplacement du pays de l'oncle Sam témoigne une fois de plus de la volonté de Kinshasa de restaurer une paix durable dans la partie est de son territoire. Il a également appelé la population à la vigilance et à l'unité afin de ne pas laisser la voie aux envahisseurs rwandais. Suivez plutôt Patrick Muyaya dans cet entretien avec Blaise Ndongala.
Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour monsieur Ndongala.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, annonce son départ pour Washington afin d'entériner l'accord de Washington, mais sur le terrain des hostilités, la situation s'enlise. Quelle analyse faites-vous de cet engagement de Kinshasa?
Écoutez, le président de la République, depuis le premier jour où il est arrivé aux responsabilités, s'était engagé pour la paix. Et vous savez qu'avec l'attitude inutilement belliqueuse du Rwanda, avec les conséquences qu'il y a sur le terrain, nous étions engagés dans un processus de paix qui a capoté du fait de l'absence du président rwandais à Luanda. Souvenez-vous, nous sommes en décembre 2024. Par la suite, il y a eu des relais, des initiatives qui ont été prises notamment au niveau de Doha et de Washington. Et dans ces cadres, il y a plusieurs documents que nous avons préparés, notamment la déclaration de principe qui a été signée en avril, mais puis plus tard, le 27 juin, nous avons signé un accord. C'est dans l'ordre normal du gouvernement américain, à la suite de la signature de cet accord faite par les ministres des Affaires étrangères, d'inviter les chefs d'État pour entérinement. Et donc, le président de la République va faire sa part dans le cadre de son engagement pour le retour de la paix. Pour ce qui concerne la situation sur le terrain, évidemment, nous connaissons la nature belliqueuse du père, le Rwanda, et du fils, le M23, mais nous avons un engagement, notamment en face des différents médiateurs américains, spécifiquement parce qu'il s'agit de Washington. Nous allons répondre à notre engagement pour que nous puissions donner une chance pour le retour d'une paix que nous voulons définitive et durable dans cette partie de notre pays.
Par rapport à l'accord d'intégration régionale, comment comprenez-vous la phrase du chef de l'État, je cite, « Ils nous ont poignardé dans les dos en 2022 ».
Parce que le président de la République, je le disais tout à l'heure, lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, la première chose qu'il a faite, c'est de faire le tour de tous nos pays voisins, où il a eu évidemment l'occasion de rencontrer tous les homologues et de penser qu'on pouvait ouvrir un chapitre de paix dans la région. Et c'était un engagement qui était clair, non pas parce que le président de la République ne connaissait pas les intentions, notamment celles du Rwanda, mais parce qu'il a pensé en signe de grandeur que nous devons regarder comment nous faisons la paix pour que nos populations qui commercent tous les jours puissent commercer dans un cadre apaisé. C'est aussi dans cet esprit-là que nous avons adhérer à la communauté de l'Afrique de l'Est pour que nous puissions voir comment on brise le barrière ou on crée un environnement de facilité pour nos hommes d'affaires dans le cadre du commerce transfrontalier qu'ils font avec les pays de cette partie de la région. Et donc c'est la suite justement logique de cette position du président de la République qui se manifeste à travers aujourd'hui la création du cadre d'intégration économique régionale. Ici je voudrais rappeler que les discussions de Washington ont porté principalement sur deux questions. La sécurité d'une part et le retour d'intégration économique d'autre part. Et nous avons dit dans les documents finaux qui a été paraffé par nos équipes et qui crée ces cadres d'intégration économique régionale que nous ne pourrons véritablement nous tourner vers la paix, vers plus d'économie que lorsque la paix sera restaurée et la paix passe pour nous par le retrait de troupes rwandaises et la cessation de tout soutien au groupe du M23.
À quelques heures de l'entérinement de l'accord de Washington par les chefs de l'État, monsieur le ministre, avez-vous un message à lancer à la population de l'Est en particulier et puis à toute la population congolaise en général?
Nous voulons d'abord lancer un message de compassion, de soutien et de solidarité et de rappeler que tous les jours, toutes les semaines, nous suivons de près la situation dans les parties du pays qui sont sous occupées. C'est pour ça que rapidement, le président de la République avait désigné un gouverneur militaire qui siège aujourd'hui à Beni, qui suit spécifiquement la situation dans les parties occupées dans la province du Nord Kivu et un gouverneur dans la province du Sud Kivu basé à Uvira qui lui à son tour suit la situation. Parce que nous avons besoin d'être sûrs qu'au quotidien, nous documentons documentons et nous intervenons pour les problèmes les plus urgents de nos populations. Et que la signature ou que les déplacements que le président de la République va effectuer à Washington s'est fait dans le strict objectif de répondre à l'impératif rapide de restaurer la paix et la sécurité. Je voudrais aussi exhorter nos populations à faire attention à la manipulation et aux campagnes de désinformation qui sont tramées par le père et les fils, le Rwanda et les M23. Vous savez que nous dénonçons souvent ce qu'on appelle le poison rwandais parce qu'il y a toujours un venin de la division, un venin de la confusion qu'on veut constamment inoculer dans notre opinion pour fragiliser le bloc national autour du président de la République. C'est pour ça que dans le cas de la campagne congolaise Téléma entre autres, nous continuons à appeler notre population à la vigilance et à la mobilisation pour être sûr que nous avons les blocs nécessaires qui nous permettent de faire face à cette épreuve pour récupérer les parties du territoire occupé et pour la restauration de la paix.
Messieurs les ministres, nous vous disons merci.
Merci à vous.